au Palais de Justice de Paris. Bonjour Amélie.
Bonjour Karine.
Radio G. 101.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les voies de l'écho du mercredi 18 mars 2026. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de femmes et d'hommes qui entreprennent, qui créent, qui imaginent et qui font bouger notre territoire. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière que nous vous proposons puisque nous allons passer toute la matinée en compagnie d'un invité qui connaît bien cette radio. Et oui, mon invité est chargé de production, responsable aussi post-production et scénographe. Il travaille à transformer des idées en projets bien réels. Et pour m'accompagner dans l'émission aujourd'hui, notre coach alchimique Anne Texero. Bonjour Anne, de quoi allez-vous parler aujourd'hui ?
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'ombre et de lumière, j'en dis pas plus, à tout à l'heure.
Ah, intéressant, on vous retrouve dans une dizaine de minutes et nous avons également avec nous le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, je sais pas si ça vous regarde, mais bon, je vais le faire quand même. Je suis très content d'être là, pourquoi ?
Eh bah dites-nous tout.
Eh bah parce que sûr, je l'ai.
Ah, très intéressant. Chef, on vous retrouve en deuxième partie d'émission. Alors non, ce n'est pas le skieur acrobatique français du même nom que je reçois aujourd'hui, mais c'est une voix que vous connaissez peut-être déjà sur Radio G, puisqu'il anime juste après nous l'émission Les Métiers de l'Ombre, un rendez-vous qui met en lumière celles et ceux qui travaillent derrière la scène, derrière la caméra, derrière le micro, ou en tout cas tous ceux que l'on ne voit pas. Mon invité du jour est Fabien Bertrand. Et justement, aujourd'hui, les rôles vont peut-être être inversés, car pendant ces 50 minutes, c'est lui, notre invité. Et avant que je ne passe moi-même de l'autre côté du micro dans son émission juste après pour une interview croisée, chers auditeurs et auditrices, mettons en lumière celui qui met en avant les métiers de l'ombre sur notre antenne. Allumez les projecteurs, c'est parti pour cette nouvelle émission des Voix de l'Écho.
Les Voix de l'Écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Bonjour Fabien Bertrand, bienvenue dans le studio de Radio G que vous connaissez bien.
Oui, effectivement, bonjour Yves, merci de me recevoir.
Eh ben avec très grand plaisir. Alors, première question Fabien, comment est née votre envie de travailler un peu dans les coulisses, parce que vous faites aussi un peu un métier de l'ombre, hein.
Oui, effectivement, c'est venu suite à mes études. J'ai voulu travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel. Et donc, à travers des recherches et un accompagnement, j'ai réussi à trouver une formation dans l'audiovisuel à me préparer dans la gestion de projets.
Et alors, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire même déjà plus jeune, tout petit, ou pas du tout ?
Ben justement, en fait, c'était un peu un moyen de me rapprocher de ce que j'aime, c'est-à-dire la comédie, le théâtre de base. Je voulais devenir acteur en soi.
D'accord.
Et donc, je me suis dit, plus on s'en rapproche, plus peut-être qu'il y aurait moyen de pousser quelques portes. Et donc, ce moyen-là, c'était de devenir chargé de production dans l'audiovisuel et le cinéma.
Alors, votre parcours vous a amené à toucher donc la production, la post-production, la scénographie exactement. Comment ces différentes compétences se sont-elles construites finalement au fil du temps ?
Eh bien, au fur et à mesure de mon expérience, en travaillant d'abord dans la télé, au final. Donc j'ai travaillé à France Télé et à TV Rennes, une chaîne de télé locale à Rennes, où j'étais donc chargé de production. Et comme je suis un peu un curieux touche-à-tout, j'ai été cadreur, monteur, et en même temps présentateur et voix off aussi. Et donc c'était pas pour me déplaire d'ailleurs, ce dernier domaine du coup, la voix et la présentation. Puis j'ai eu une opportunité de venir sur Angers pour travailler au sein d'une société de production audiovisuelle avec un youtubeur, où donc là j'étais chargé de prod et manager des équipes de post-production. Puis avec cette volonté de vouloir développer les concepts et la chaîne du youtubeur en question, j'ai développé la partie décor, scénographie, avec ses équipes, ce qui m'a mené aujourd'hui à proposer aussi ce service dans la décoration et la scénographie.
Ok, on en reparlera tout à l'heure effectivement de cette expérience de YouTube qui peut être spécifique. En tout cas, est-ce qu'il y a une rencontre ou un mentor qui a particulièrement compté dans votre parcours ?
En vrai, je dirais qu'il y en a eu beaucoup. Parce que quand on commence à travailler, des fois il faut des personnes qui nous apprennent les choses. Donc tout d'abord, quand j'ai été à France Télévisions, il y avait un chargé de production, directeur même de production, Michel Amand, qui m'a beaucoup formé et un peu poussé à aller découvrir les choses. Donc ça, déjà, quand on fait une première rencontre comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir le maître Jedi déjà de l'audiovisuel français qui est là. Puis après, donc en faisant mes armes à TVRN et en explorant tout ce qui est la partie technique, j'ai eu Lee Kwang-bui, qui est du coup lui directeur technique là-bas, qui m'a beaucoup appris sur le management des équipes. Donc en fait, j'apprenais encore une autre corde à mon arc qui donc du coup m'a servi après, lorsque je suis arrivé dans les équipes de production du youtubeur en question. Et à son tour, ce youtubeur qu'on peut nommer du coup, qui est Amixem, lui-même m'a beaucoup appris aussi, non seulement dans la gestion d'un projet, dans le développement d'un projet, que ce soit audiovisuel ou même entrepreneurial, et la gestion et le management d'équipe encore, et toujours en se poussant à toujours trouver des nouvelles idées dans la création, la créativité, etc. Parce que chez lui, ça fuse dans tous les sens. Donc du coup, il fallait suivre ça. Et donc, ça m'a poussé moi aussi à me remettre au pied levé, à créer à chaque fois des nouvelles choses.
Et alors, pourquoi vous avez fait le choix d'être indépendant aujourd'hui? Parce que vous étiez donc salarié, hein, c'est ça, chez Amixem?
Exactement, oui. En fait... Il y a eu ce fait que YouTube, c'est un domaine qui vit à 100 à l'heure, où les projets vont très vite, à un nombre de productions assez important par semaine, ce qui fait que, en fait, pour ne pas vraiment se dégoûter de ce métier, on est obligé de prendre du recul et se dire, j'ai quand même besoin de souffler, ou sinon je vais m'en dégoûter à vie. Et donc c'est là où j'ai préféré faire ce choix de voler de mes propres ailes. Alors déjà de base, il y a l'idée de vouloir revenir à mes origines, mes rêves d'enfance, c'est-à-dire la comédie. Donc c'est-à-dire me former comédien, théâtre, etc. Bien que je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans, mais continuer dans cette voie-là, me former à la voix off, au doublage. Après, il y a cette voix... Alors on va dire la voix VOIE de ce métier qui est particulièrement bouchée si on n'habite pas sur Paris. Et donc j'ai fait beaucoup de fois des déplacements, mais beaucoup de portes closes malheureusement. Ce qui a fait que mes capacités, mes connaissances dans le milieu de l'audiovisuel et de la scénographie que j'ai pu explorer et exploiter avec Amixem m'a fait que du coup on m'a demandé... de créer certains studios, décors, etc. Donc je me suis dit, bah en fait, il y a quelque chose à faire. Et donc c'est pour ça que je me suis mis auto-entrepreneur dans ce domaine.
Et vous travaillez toujours avec Amixem ou pas du tout ?
Oui, il m'arrive parfois de travailler en collaboration avec ses équipes, notamment pour les gros projets comme les vidéos Lego, dont la dernière en date, celle où il construit le Black Pearl et où j'ai conceptualisé, modélisé en 3D tous les décors. De Pirates des Caraïbes.
Ouais, alors quand on est justement dans l'ombre, comment on passe de l'idée qu'on a dans la tête finalement vers un projet concret, qu'on donne vie ? Est-ce qu'il y a un processus créatif qui existe ?
Pour ma part, c'est assez direct. On me donne un fil rouge, une ligne conductrice, une phrase, un mot. Et je pense que c'est toute ma culture de la pop culture. C'est-à-dire que depuis enfant, j'aime le cinéma, la télé, la musique, etc. Et en fait, j'ai été bercé avec ça. Je crois même que la première fois que j'ai été au cinéma, j'avais 3 ans. Et j'ai pas branché, j'ai adoré. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui se cultive au fur et à mesure. Et donc dès qu'on parle d'une idée, de quelque chose, d'un concept, pop, ça, direct, je visualise ce que je peux proposer. Donc c'est presque une évidence pour moi.
Ouais, ça c'est top. Fabien, je vous propose de faire un premier jeu dans l'émission. D'abord un petit jingle. Alors, nous allons commencer par la boussole métier. 5 questions pour comprendre un peu mieux ce que vous faites. Est-ce que vous êtes prêt, Fabien?
Allez,
c'est parti. Dans votre métier, quand vous démarrez un projet, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La vision artistique, la faisabilité technique?
Je dirais le côté artistique, ouais.
D'accord. Quel projet ou quelle expérience a vraiment façonné votre manière de travailler aujourd'hui?
Bah, mon expérience dans YouTube.
Ouais, on en a parlé juste avant, en effet. Y a-t-il une technologie ou une évolution dans l'audiovisuel qui vous motive particulièrement en ce moment?
C'est d'apprendre à travailler de manière qualitative les rendus et l'immersion à travers les décors.
D'accord. Dans un métier où l'on travaille beaucoup dans les coulisses, qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction? C'est voir le projet final abouti ou savoir tout ce qu'il a fallu construire pour en arriver là?
Je dirais la cohésion avec tout le monde et ensuite le client final ou le comédien ou autre qui a les yeux émerveillés devant le décor.
Et alors avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, Fabien, qu'est-ce que vous diriez au petit Fabien qui démarre dans ce métier?
T'es un créatif, tu vas y arriver, continue.
Ouais, super. Merci Fabien pour vos réponses.
Les voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, lorsque l'on est dans l'ombre, il y a aussi à côté la lumière. L'un ne va pas sans l'autre, je pense. Et c'est justement le moment d'écouter la chronique d'Anne Texereau.
Je sème, donc je suis. Une chronique de la coach Anne Texereau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du monde dans lequel nous vivons. Monde qui présente à bien des aspects sa face la plus sombre et ténébreuse. Tensions, conflits, guerres peuplent notre réalité largement relayée par les médias. En vérité, la lumière perce et elle met le projecteur sur la noirceur du monde. Ombre et lumière sont-elles les deux faces d'une même pièce? Et l'ombre est au service de la lumière. C'est parce qu'il y a l'ombre que je peux voir la lumière. Ce jeu ombre et lumière est un processus cyclique de mort et de renaissance. C'est donc un processus d'ouverture et de libération. Ainsi, cela doit nous donner de l'espérance, car l'avenir n'est pas figé. L'avenir n'est pas une fatalité, mais bien une matière énergie vivante que nous façonnons par rapport à notre vibration. Cela nous amène pour chacun d'entre nous à notre part de responsabilité. Qu'est-ce que je désire vibrer dans ma vie? Le stress? La crainte? La peur? La violence ou bien l'équilibre, le calme, la sérénité, la paix. Il est temps que chacun d'entre nous prenne cet engagement, car ce que nous allons vivre demain dépend de chacun de nos décisions et comportements. C'est à la fois individuel et collectif. Voyez l'humanité comme un orchestre où chacun joue sa mélodie. Mais sommes-nous prêts pour nous harmoniser? Cela nous invite à se poser ces questions. Suis-je capable de gérer mes émotions? Suis-je capable d'adoucir mes pensées? Finalement, le chaos extérieur n'est que le reflet de mon propre tourbillon intérieur non pacifié. Si bien que nos états d'être négatifs ont terni et défiguré la Terre et l'humanité. Je pense que la paix du monde commence par la paix de notre propre esprit. Quand on se sent ballotté par des vents contraires, par des événements extérieurs difficiles ou par des remous intérieurs, cela signifie que quelque chose cherche à être vu pour être soigné, réparé, guéri. Oui, en vérité, nous vivons un processus de purification et de guérison. C'est pourquoi nous sommes dans cette phase de révélation où tout ce qui était caché se voit au grand jour. L'ombre doit être vue pour être transmutée. Dans la grande partition cosmique, chacun a une raison précise d'être incarné lors de cette période charnière.
Maintenant, il s'agit de reprendre son pouvoir et d'incarner ses valeurs pour faire le bien, le beau, le bon. Et nous pouvons nous questionner à chaque instant dans toutes nos actions. Par exemple, quand je porte un jugement sur tel collègue au bureau, suis-je en train de faire le bien ? Quand je critique une situation avec un avis tranché, est-ce que par mon énergie, je ne renforce pas ce qui va mal ? À l'inverse, chaque acte positif, chaque pensée lumineuse élève notre taux vibratoire, tout comme l'énergie du monde qui nous entoure. Plus nous sommes conscients de ces états, et plus nous nous plaçons dans la volonté d'évoluer et dans la réceptivité de la vie qui œuvre à travers nous. C'est pourquoi chacun doit devenir responsable de ses agissements, pour apprendre à discerner à chaque instant le vrai du faux, le bien du mal, le positif du négatif, la lumière de l'ombre, l'amour de la peur, et se positionner. Il ne s'agit plus d'être contre et en lutte avec le monde et avec soi-même, car cela crée la division et non l'unité. Alors, voulons-nous participer à cette danse duel ou voulons-nous créer un monde de paix et d'harmonie ? Alors Fabien, j'ai une question pour vous, c'est peut-être un peu capillotracté comme dirait Yves. Y aurait-il un lien avec votre émission de radio ou alors une résonance avec vous-même par rapport à ma chronique du jour ?
Aha. Eh bien, tout juste, ouais. En vrai, quand j'ai vu l'annonce de Radio G qui cherchait donc une nouvelle émission et des nouveaux animateurs, c'est venu comme une évidence, mais vraiment, comme si on appuyait sur un bouton d'interrupteur et que la lumière apparaissait. Bah là, j'ai eu cette lumière là en me disant ah oui, eh ben en fait, je vais vous proposer une émission sur les métiers de l'ombre puisque moi j'ai fait un métier de l'ombre et c'est important de reconnaître ces métiers, ces gens derrière en coulisses. Mm-hmm. Donc c'était tout naturel.
Super, merci.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Anne pour votre chronique toute en douceur. Merci.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors c'est parfait parce que la chronique d'Anne est un très très bon levier pour la suite parce que je voulais justement venir maintenant sur les métiers de l'ombre et parler Fabien donc de votre émission de radio.
Est-ce qu'il est besoin de fermer le volet pour les métiers de l'ombre ?
Eh ben c'est une bonne question hein.
Il faut au moins un rideau pour se cacher derrière.
Ah, merci Fabien. Je le fais de suite dans le studio, Yves. Je ferme le volet.
Ah bah, je veux bien. Merci Hervé, c'est important. Justement, les métiers de l'ombre, pourquoi est-ce important pour vous de mettre en lumière ces professionnels ? Alors, vous l'avez un petit peu amorcé comme réponse avec la question d'Anne, mais voilà, de façon encore un peu plus construite, qu'est-ce qui est important pour vous ?
Eh bien, c'est pour reconnaître et remercier toutes les, alors je les appelle les petites mains, mais à la fois les héros de l'ombre, sans qui en fait tout ce que l'on voit devant nos yeux, que ça soit à la télé, au cinéma, dans l'événementiel, mais pas que, parce qu'en fait à travers l'émission des métiers de l'ombre, je découvre que tous les domaines d'activité sont concernés par ça, et c'est important en fait de leur rendre honneur, hommage, parce qu'ils font un métier au quotidien ultra important en fait.
Ouais, ça c'est clair. Et ça vous est déjà arrivé de recevoir aussi d'autres métiers que des métiers qui gravitent autour de l'audiovisuel ?
Mmh. Oui, totalement. Je pourrais donner quelques exemples. Notamment, j'ai eu une doctorante chercheuse qui élève des cellules au quotidien, donc comme si on élevait peut-être des animaux ou autres, mais en tout cas elle les entretient de sorte à pouvoir faire des tests avec elle pour lutter contre la maladie du cancer du sein. Donc c'est un exemple dans le domaine médical, mais il y a aussi par exemple dans l'édition, les relectrices correctrices, où on ne se doute pas qu'un livre qu'on lit, un article qu'on lit, en fait on croit qu'il est écrit et corrigé par la personne qui l'a écrite ou via un site sur internet, alors que non, il y a vraiment un travail de fait, de reformulation de phrases, de correction, etc. Donc c'est hyper important tout ce qu'on tout ce qui nous entoure. Je prends souvent cet exemple-là, mais je l'ai pas encore reçu dans mon émission. Mais c'est, vous imaginez, on est le 30 novembre et on va se coucher le soir et le lendemain, on voit que toutes les illuminations de Noël sont installées dans la nuit, dans la ville. Et ça, je trouve ça l'exemple parfait parce qu'en fait, il y a des gens qui travaillent autour de nous et c'est ces petites mains qu'il faut remercier, quoi.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, votre émission par rapport à ça.
Merci.
Et qu'est-ce que la radio vous apporte plus que les autres médias ne vous offrent, Fabien ?
Eh bien, cette proximité déjà, donc avec l'invité, qui ensuite est directement partagée aux auditeurs de Radio G, et ça permet aussi de prendre le temps de connaître un peu plus chaque individu. Que ça soit à travers son côté personnel que professionnel, et ça je trouve ça important et bénéfique, que ça soit pour la personne qui vient, parce que ça, au début il y a un peu d'appréhension, c'est normal, c'est la radio, il y a un micro, ça fait peur, et sauf qu'après un quart d'heure, 20 minutes, tout se passe très bien.
Et alors encore une dernière question sur les métiers de l'ombre, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert grâce à votre émission que vous n'imaginiez pas du tout au départ?
C'est ce goût de la passion. On a beau croire que oui, ces personnes-là font des métiers peu connus ou peu reconnus ou dans l'ombre, mais en fait, on voit que ils le font pas pour le mérite ou la reconnaissance qu'il y a derrière, s'il y en a, mais surtout par passion, parce qu'ils aiment ce qu'ils font vraiment.
Oui, Anne, vous avez une question.
Ah, écoutez, Fabien, j'ai des questions et là, j'en ai une qui me traverse l'esprit. Comment, Fabien, l'intelligence artificielle s'immisce dans les métiers de l'ombre, et peut-être comment vous avez vu effectivement l'intelligence artificielle transformer aussi ces métiers?
J'ai toujours vu qu'en parlant avec mes invités, il y avait toujours malgré tout une bienveillance. Ils ne considéraient pas forcément l'IA comme une menace, mais comme quelque chose avec lequel ils vont devoir s'adapter pour justement encore plus rendre qualitatif leur métier. Donc c'est ça aussi que je trouve important, c'est de parler de notre quotidien, de ce qui nous entoure, et de s'adapter avec.
Ouais, complètement d'accord. Moi, je considère aussi que c'est un outil. Hein. Faut l'utiliser comme un outil plus que qu'autre chose, comme on utilise un pinceau, par exemple, pour faire de la peinture.
Tout à fait.
Je vais revenir sur votre métier justement de responsable un peu post-production dans l'audiovisuel. C'est quoi comme rôle exactement pour les personnes qui connaissent pas ce métier?
Alors, en l'occurrence, la post-production, c'est on va dire la troisième étape. Qui est posé sur une frise temporelle de la création d'un produit audiovisuel. C'est-à-dire que tout d'abord, on a ce qu'on appelle la pré-production, donc préparation en soi d'un projet, donc tout ce qu'il y a logistique, préparation, contact, prestataire, etc. Puis production, donc là c'est le moment où on tourne le produit, donc caméra tourne, rec, c'est parti, on y va. Et ensuite post-production, donc c'est tout ce qu'il y a après donc le tournage, récupération des rushs vidéo, son, etc. Et donc où on assemble tout, on fait le montage. Donc là il y a des techniciens qui sont là pour ça, des monteurs vidéo. Et donc moi mon rôle dans ce cas-là c'était que le temps de montage rentre dans des plannings, parce que parfois derrière il y a des dates de diffusion, des dates de publication et des attentes à travers des clients également, comme on appelle les sponsors ou partenariats dans certaines vidéos, où justement le client a une date, un événement prévu, et donc il est lié avec la vidéo. Et tout ça, en fait, il faut encadrer ça dans un planning, vérifier que la commande soit bien là, que le résultat, il n'y ait pas de faute, il n'y ait pas de, on va dire, d'image noire entre deux images, que le son ne saute pas, enfin bref, plein de petits détails. Donc mon travail était de suivre la planification et en même temps de vérifier les contenus à travers des versions 1, version 2, version 3, enfin, jusqu'à ce que la version soit parfaite et puisse être publiée en temps et en heure.
Et alors, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus critiques que d'autres dans la chaîne de production, justement?
Je dirais que ça... Alors, la partie pré-production, préparation, parce que pareil, encore une fois, c'est toujours aussi à des dates données. Donc c'est-à-dire que si on tourne dans un lieu, par exemple, et qu'on a prévu de tourner à une date précise, à une heure précise, eh bien il faut que tout ce qui est fait en amont soit prêt pour cette date et cette heure-là. Et donc je dirais que c'est peut-être cette partie-là la plus compliquée parce que ça ne dépend ça dépend forcément de la production, des chargés de production, directeurs de production, etc. Mais ça dépend également des prestataires parce que il y a de la fabrication de décors, il y a de la location de matériel ou du test de matériel si ça fonctionne bien, il y a des comédiens, etc. Donc s'il y a une moindre épine, et c'est là la complexité, c'est qu'il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et c'est d'ailleurs ça que nous a appris Amixem, parce que il y avait toujours des rebondissements dans ces productions qui sont toutes hors normes. Et donc du coup, à chaque fois, il fallait toujours rebondir, retomber sur des plans différents prévus à l'avance.
D'accord, très intéressant. On reparlera un petit peu justement des dessous de YouTube tout à l'heure en deuxième partie. En tout cas, je vous propose de faire une pause musicale à présent dans l'émission. Nous allons écouter Nori Brandyfoot, donc de Bear McCreary, qui vient de la série du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. On reparle de ce choix musical avec vous, Fabien Bertrand, juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'Écho et je suis en compagnie de mon invité Fabien Bertrand, scénographe et responsable post-production. Nous venons d'écouter Nori Brandyfoot de Bear McCreary qui vient donc de la série du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Fabien, pourquoi avoir choisi ce titre musical? Dites-nous tout.
Eh bien, alors déjà, Seigneur des Anneaux, ça, c'est pour moi une base cinématographique. C'est une saga, un monument du cinéma que que je ne pourrais jamais renier. Et donc, j'aurais pu très bien mettre la célèbre musique que l'on connaît tous du Seigneur des Anneaux, mais là, j'ai voulu changer un petit peu. Et surtout que j'ai découvert Bear McCreary, qui est du coup un compositeur de musique, de films et de séries, notamment pour le jeu God of War, que peut-être certains connaissent, ou encore la série Outlander. Du coup, c'est un compositeur qu'on découvre de plus en plus avec plein de séries. Et je trouve que ce morceau est totalement magique. Et donc, du coup, c'était le pont parfait.
Ouais. Est-ce que dans votre routine créative, vous écoutez souvent de la musique de film ?
Quotidiennement. Uniquement.
Uniquement.
Je suis vraiment attelé à écouter, enchaîné à écouter ces musiques toute ma vie, je crois. Hein. C'est depuis toujours. Alors là, tous les plus grands, les John Williams, Hans Zimmer, les Brian Tyler, les Howard Shore, enfin tous, ils y sont passés et je les ai tous dans ma playlist. Voilà.
Ouais, ça c'est top. En même temps, vous ne pouvez faire qu'un euro parce que je suis convaincu aussi de la musique et de la bande originale. Vous travaillez donc comme scénographe, mais aussi vous faites de la modélisation 3D. Comment ces outils transforment-ils la manière de concevoir un projet pour vous, Fabien ?
En fait, ça permet de mettre un visuel pour les clients avec qui je travaille. C'est-à-dire que donner des idées, coller des photos sur un document qui vient de Pinterest, bon, ça parle un peu, mais vaguement. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment recréer l'univers et rendre ça immersif pour que la personne qui commande le décor puisse se projeter tout de suite et se dire oui, c'est ça que je veux ou non, c'est pas ça. Donc ça permet de vraiment d'être un outil imparable pour se projeter dans la déco, le décor et le lieu pour l'événement.
Finalement, vous bossez un peu comme un architecte en soi.
Alors oui, ça pourrait être comparable, même si je n'ai pas la formation d'architecte, mais c'est plus un côté designer créatif d'espace.
D'accord.
Voilà.
Plus que archi, ouais. Alors, quand vous démarrez justement un projet, vous commencez par vous faire une image mentale, un dessin, ou directement vous foncez sur le logiciel 3D ?
Non, déjà, j'échange beaucoup avec la personne. J'ai besoin de sentir un peu le feeling de mon client, lui demander des mots-clés, des couleurs, des textures, enfin, ça, je les trouve après, mais c'est important parce que je dis toujours que on a tous des références en tête. C'est-à-dire que si on veut un décor sur un thème fantastique, par exemple, on va tout de suite imaginer, je sais pas, des dragons, des sorciers, enfin, c'est le thème fantastique, admettons. Eh bien, j'ai besoin de savoir si je vais dans la bonne direction. Donc, du coup, je demande quelques mots-clés et là, tout de suite, je tilte. Et donc, je propose des croquis, des moodboards, d'abord, dans un premier temps. Et une fois que je valide ça avec mes clients et qu'il y a vraiment la température de l'événement qui se crée petit à petit, eh bien là, je fonce vers la 3D, la modélisation, pour mettre ça en forme. Et ensuite, je propose mes rendus visuels 3D réalistes aux clients.
Alors on va rentrer un peu dans le vif d'un projet. Vous avez travaillé donc notamment pour le GP Explorer au Mans, donc la course de voitures de plusieurs youtubeurs pour ceux qui ne connaissent pas. Comment fonctionne ce type de projet et qu'est-ce que vous avez fait exactement pour ce projet ?
Alors le projet, le GP Explorer, donc créé par Squeezie, donc l'un des plus gros youtubeurs, le plus gros youtubeur de France.
Presque, il y a Thibaut InShape devant lui.
Il y a Thibaut InShape, oui.
Mais même si lui, c'est très international plus que je pense.
Oui, c'est à travers des... Oui,
oui, pardon Hervé.
Après moi, Yves.
Après vous, Hervé, bien évidemment, bien sûr.
Of course, donc on va dire que c'est le troisième. Voilà. Donc Squeezie, le troisième youtubeur de France. Donc. Et donc ça fait quelques années maintenant qu'il organise le GP Explorer sur le circuit du Mans, où entrent en compétition des influenceurs youtubeurs vidéastes en concourant dans des monoplaces en fait. Et donc les deux premières années, les deux premières sessions du GP Explorer, donc j'étais au sein des équipes d'Amixem, donc en tant que justement responsable d'équipe et technique pour le suivre lui. Amixem donc, et Étienne qui était son pas copilote, mais ils concouraient tous les deux dans la même écurie quoi.
Ok.
Et donc la troisième session donc, j'ai travaillé sur le décor de la marque Space Fox, qui est la marque que Amixem a créée avec deux autres fondateurs. Et donc Joey Boivin, qui est justement l'un des DG de Space Fox, a fait appel à moi pour créer un nouveau décor sur une thématique un peu futuriste, garage abandonné, avec un storytelling comme quoi ce serait les générations futures d'Amin Sem qui auraient retrouvé des débris de sa première voiture pour la transformer en vaisseau spatial, un peu dans un garage futuriste. Donc c'était la base donnée, et donc j'ai construit tout ce décor à travers ça, mais sur un court terme.
Ouais, c'était rapide.
Ouais, le projet a commencé à faire parler de lui fin juin, début juillet. Donc là, il a fallu mettre des bouchées doubles, parce que qui dit juillet-août dit période estivale, donc dit tout le monde en vacances. Donc pour la fabrication de décors, c'était très très timé. Et puis après septembre à fond pour direct début octobre l'installation sur place du décor.
Et alors, ça vous fait quoi de voir justement un projet 3D ou en dessin, le voir en vrai, du coup?
C'est vrai que c'est une satisfaction, mine de rien. C'est de voir que ce qui est sorti de sa tête est réel devant soi, quoi. Ça c'est clair que ça fait toujours plaisir, ouais.
Fabien, je vous propose de faire un deuxième jeu dans l'émission. Allez, c'est parti. Pour ce deuxième jeu, nous allons faire un vrai-faux express. Vous devez simplement répondre par vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts?
C'est parti.
Allez. Ah bah disons, c'est quoi? J'ai mon doigt qui a ripé. Pardon. Pourtant, non, j'ai pas des gros doigts, Hervé. N'importe quoi. Heureusement que je coupe votre micro des fois, hein, et que les auditeurs vous entendent pas. Hein. Allez, c'est parti. Dans la production audiovisuelle, la post-production peut parfois durer plus longtemps que le tournage.
Ouais.
Sur un projet vidéo, le montage est souvent décidé bien avant que le tournage ne commence.
Faux.
Aujourd'hui, une simple vidéo YouTube peut mobiliser autant de personnes qu'une petite production télé.
Largement, vous verrez.
C'est plus facile de travailler avec un YouTuber qu'une entreprise.
Faux.
La modélisation 3D permet parfois de corriger des erreurs de décor ou de conception avant même la construction.
Faux.
Les métiers de l'audiovisuel sont plus visibles que d'autres. Enfin, voilà.
Les métiers de l'audiovisuel sont plus visibles que d'autres?
Ouais.
Faux.
Je sais, elle était un peu bizarre celle-là. Un bon projet audiovisuel repose autant sur l'organisation et la logistique que sur la créativité.
Ouais.
Non, j'en ai fait plein, en fait, j'en ai encore quatre. Sur YouTube, beaucoup de vidéos qui semblent improvisées sont en réalité très préparées.
Faux.
Ok. Allez, je vais raccourcir un peu. La scénographie consiste uniquement à créer des décors.
Faux.
Ok. Voilà, je vais arrêter là. Les deux autres, c'est un peu redondant, en fait. Merci beaucoup, Fabien, pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, il y a des aliments qui passent aussi leur temps dans l'ombre et qui ont besoin de lumière. Je parle bien sûr des aliments que vous stockez dans votre frigo ou dans le congélo. C'est le moment d'ouvrir cette grosse boîte métallique pour prendre un bon coup de froid et se laisser réchauffer par la chronique du chef Hervé Chéneau.
De la fourche à la fourchette, une chronique du chef Hervé Chéneau.
Ebi.
Oui, c'est effectivement vrai, Yves aime beaucoup la musique, celle qui est très entraînante, c'est vraiment très très chouette. Merci Yves pour ce moment difficile.
je savais même pas s'il fallait que vous la mettez maintenant, votre musique.
Si, non, mais il y avait des paroles derrière qui étaient vraiment touchantes, mais c'est pas grave, je me débrouille.
Mais si vous voulez, je vous la remets à un moment donné. Hein.
Non, parce qu'il y a les paroles, c'est pas grave, on la mettra une prochaine fois.
Mais vous voulez que je la mette maintenant?
Oui.
Eh ben, je la mets maintenant et vous commencez après, c'est ça?
C'est ça.
Eh ben, on fait ça. Ah là là, vive le direct, j'adore ça.
Merci, merci Yves. Voilà.
Ouais, voilà.
Comment c'est... le froid peut réchauffer les âmes. C'est beau.
Ouais, c'est beau. C'est beau.
Voilà. Je ferai une petite parenthèse avant de faire ma chronique, parce qu'en fait, on parlait de l'IA tout à l'heure, et si effectivement une personne au-delà du monde s'appelle Yves Artemis, il est devenu célèbre. Monsieur IA, aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un de très important. Il est devenu important du jour au lendemain, ce monsieur. Enfin, Yves.
Oui.
Yves avec un I.
Oui, non mais c'est oui, d'accord.
Il y a Yves Artemis ou Yvon Artemis.
Ouais, aussi, ça
aussi,
peut.
C'est bon. Alors,
non, elle était mauvaise cette blague.
Elle est mauvaise.
On la garde pas.
On la garde pas. Alors, bon, quand on va parler du frigo, bah oui, ça, je vous demande vraiment beaucoup d'attention, messieurs dames, parce que ça va vous révolutionner votre quotidien. Comment bien ranger son congélateur? Eh bien, écoutez, une première règle simple et importante à suivre consiste à disposer les aliments par type, les viandes. Avec les viandes, parce que les poissons avec les viandes, je vous assure, ils se battent, c'est pas simple. Le poisson avec le poisson, les légumes avec les légumes, les glaces avec les glaces et les desserts avec les desserts. Je ne vous apprends rien. Pour congeler vos propres préparations, utilisez des sacs de congélation. C'est le plus pratique et le plus simple. Vous pourrez ainsi réchauffer les sacs directement au micro-ondes. Vaut mieux éviter, mais le micro-ondes, c'est pratique, c'est rapide. Ou mieux encore, dans une casserole d'eau chaude. Je préfère ce deuxième élément. Enlevez le surplus d'air lorsque vous mettez vos aliments dans le sac. On aspire le sac. Il n'y a pas d'air, il n'y aura pas de glace dedans. En appuyant dessus, avant de fermer, le sac prendra moins de place. Et pas d'air et pas d'eau, je précise, dans le sac. Sur chaque sac, inscrivez la date de congélation et ce qu'il contient. Il arrive qu'on ne voit pas la différence entre deux préparations. C'est vrai, c'est tellement congelé qu'on se dit « Oh tiens, je vais sortir un petit... » Et il a sorti un bloc de glace. C'est génial pour son déjeuner. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes en plastique dans lesquelles vous mettrez vos sacs de congélation. C'est encore mieux. Dès que vous voyez du givre sur un aliment congelé, il est bon à jeter. Absolument. Il est trop vieux ou abîmé. Il est brûlé par le froid. Donc jetez-moi ça in expresso. Et chaque fois que vous congelez des préparations, mettez-les derrière les autres pour bien voir les anciens produits congelés et les consommer en premier, comme un bouquin, un vieux bouquin, etc. etc. Voilà. Deuxième élément. Une fois par an, pensez à nettoyer votre congélateur. Une fois par an, pas tous les deux ans ou tous les trois ans, avec du liquide vaisselle, le meilleur qui soit sur le marché. Le plus simple est de mettre le thermostat au plus froid pendant deux jours pour que les aliments descendent à une température proche de moins 26 degrés. On descend le congélateur. Réglez aussi votre réfrigérateur au plus froid pendant 24 heures. Vous me suivez toujours?
Oui.
Videz votre réfrigérateur, puis transférez-y les aliments congelés dans le frigo qui est très froid. Voilà, éteignez le congélateur et laissez la porte ouverte pour qu'il se réchauffe. Attention, le chat, quelquefois, peut s'immiscer dedans. On referme la porte. Le pauvre chat. C'est arrivé. Et donc, une fois qu'il s'est un peu réchauffé, nettoyez l'intérieur, puis séchez bien pour éviter d'avoir de la glace au fond sur les parois. Anne. Attention, cette opération doit être assez rapide pour que les aliments ne se décongèlent pas dans le réfrigérateur. Comptez un maximum de deux heures. Évitez d'inviter des gens ce jour-là parce que ça fait des ordres d'avoir un congélateur et un frigo ouvert. Voici quelques durées de conservation maximales pour des préparations congelées. Par vos soins, les produits surgelés vendus en magasin se gardent plus longtemps. Oui. Le pain, un mois. Le poisson, cinq mois. Porc, agneau, veau, six mois. Fruits et légumes, huit mois. Bœuf, volaille, gibier, 12 mois. Enfin, je pourrais vous dire plein de choses encore. On a du temps, Yves?
Non, on n'a plus de temps, chef.
Ah, c'est dommage parce que la fin, c'était vachement intéressante. Mais je vous conseille vivement de prendre des légumes surgelés. J'entendais ce matin sur une radio très concurrente, avec trois lettres, RTL, on parlait des surgelés. Et il disait qu'en ce moment, par exemple, les courgettes sur le marché sont plus chères que les courgettes surgelées. Je vous conseille vivement d'acheter des courgettes surgelées. Vous les payerez moins cher. Et elles ont été surgelées 24 heures après la cueillette. Donc... finalement, le surgelé, je vais pas donner de marque, si, peut-être, non.
Non, on va éviter.
On n'a pas envie de donner de marque, mais vous vous rendrez compte qu'en achetant des courgettes surgelées coupées, en plus, ça vous gagne du temps, dans le congélateur, plutôt que d'aller chercher frais sur le marché au prix de l'essence en ce moment, vous comprenez que le congélateur en a bien besoin. J'ai une question pour Fabien. Dans quel état est votre congélateur? Soyez franc.
Ça dépend des étages. En vrai, beaucoup de légumes surgelés, ouais, effectivement.
Oui.
Quelques Alors plat surgelé pour prendre le midi, pour pouvoir déjeuner sur le pouce.
Oui, des plats tout faits.
Voilà, exactement.
Oui, dommage.
Oui, dommage. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que je suis gourmand le soir et donc je finis toutes mes toutes mes préparations. Mais voilà, ça va. Mais par contre, pas trop de glace en ce moment. Ça va venir. Ça va venir.
Ouais, avec la chaleur.
Voilà.
Ok. Merci.
Avec plaisir. Merci.
Merci beaucoup, chef. En tout cas, là, vous m'avez encore une fois appris des choses. Et c'est vrai que je voyais la réaction d'Anne. Je suis tout pareil. Dès que je vois un peu de givre, en fait, moi, je jette pas. Je consomme, en fait.
C'est brûlé par le froid. C'est vraiment, il y a plus vitamines, il y a plus rien. Jetez ça, s'il vous plaît, jetez ça. Donnez-le au chien. Oh, pardon, au chat,
au chat qui est resté dans
et
le congélateur.
Et encore, lui il va maigrir hein, en mangeant ça. Donc.
D'accord. Bon, bah merci en tout cas, chef, encore pour toutes ces informations culinaires.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors on va terminer cette interview, Fabien, en parlant de l'univers de YouTube. On a encore quelques minutes pour en parler. Et justement, qu'est-ce qui différencie une production YouTube d'une production audiovisuelle classique? Est-ce que vous avez vu des différences quand même ou pas?
Je dirais principalement la fréquence de production, de tournage qui est différente. En fait, je m'explique. En ayant travaillé dans la télé, où là, on va dire, il y a une récurrence dans les émissions de télé, ou par exemple le JT du soir, ou des émissions magazine qui sont tournées toutes les semaines. En fait, ça devient presque des réflexes, parce que il y a juste l'invité qui change, mais le présentateur c'est le même, la disposition des caméras c'est la même, les techniciens c'est les mêmes. Donc ça, en soi, une fois que on a préparé une fois, ben, ça devient presque redondant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que dans YouTube, chaque tournage vidéo, ça n'a rien à voir. Soit on tourne en studio, soit on tourne à l'extérieur, soit on tourne dans un décor incroyable. Et tout ça, en fait, il faut se réadapter à chaque fois. Et c'est jamais les mêmes semaines. Et parfois, il peut y avoir deux tournages dans la même semaine. Donc c'est pour ça que les équipes, par contre, ça reste les mêmes. Mais le matériel aussi. Mais il faut toujours changer, s'adapter en fonction du tournage qui n'est jamais le même. Sauf à partir du moment où, comme Amixem l'a fait, c'est-à-dire créer une série, comme par exemple les mille couches, ou les cache-cache, ou les choses comme ça, où là, on commence à bien connaître le fonctionnement, et donc là, ça se répète un petit peu. Je parle dans l'installation technique. Mais en soi, dès qu'il y a des nouveaux concepts qui arrivent, ah ben là, en fait, il faut vraiment s'adapter, réfléchir, bien préparer en amont comment on va s'organiser, de sorte à ce qu'on soit prêt pour chaque production et qu'il n'y ait pas de quoi.
Et alors, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, un concept, fonctionne mieux aujourd'hui sur Internet plutôt qu'à la télé?
Je dirais que ça va dépendre. En fait, il y a des projets qui sont établis depuis un bout de temps, et donc en fait, ça définit l'univers du créateur, de l'influenceur. Et c'est ce que les gens aiment, c'est comme un rendez-vous en fait. On sait que cette vidéo-là, elle est drôle, elle marche, et ben les gens ils en veulent. Et dès qu'on a un nouveau contenu qui est un peu différent, qui sort un peu du lot, ben lui par contre, ben il faut le temps que les gens s'y apprivoisent et tout ça, et ça met un peu de temps. Donc ouais, en fait il faut vraiment se fier à ce que les gens regardent.
Et oui, ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Fabien Bertrand, merci beaucoup d'avoir été avec
merci
nous
beaucoup,
dans
Yves.
Les Voix de l'Écho ce midi. On a plongé ensemble dans ces métiers passionnants qui permettent de transformer une idée en réalité, que ce soit à travers la production, la post-production ou encore la scénographie. Et ce que j'aime particulièrement dans votre parcours, Fabien, c'est justement cette capacité à travailler dans l'ombre pour que la lumière existe. Alors, la bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que l'on ne va pas vraiment se quitter tout de suite, et oui, puisque dans quelques instants, c'est vous qui allez prendre les commandes du studio avec votre émission Les Métiers de l'Ombre, ici sur Radio G, sur un format un peu spécial d'une heure et surtout en direct par rapport à d'habitude pour vous. Et pour le coup, les rôles vont s'inverser. Je vais passer de l'autre côté du micro puisque c'est moi qui vais être votre invité et je vous en remercie. Donc si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière mon travail de réalisateur, de formateur, d'organisateur, d'événements ou même d'animateur radio, je crois que Fabien va
avoir quelques questions pour moi. Restez donc bien avec nous sur Radio G. Les métiers de l'ombre commencent dans quelques instants. Merci beaucoup Anne Texero et Hervé Chenot pour vos chroniques, bien évidemment. Merci Fabien et à tout de suite, mais cette fois-ci de l'autre côté des platines. Pour ce qui est des voix de l'écho, on se retrouve le mercredi 1er avril 2026 de 12h10 à 13h et en direct. Restez connectés sur Radio G et d'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup Yves. Et oui, bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière, un mercredi sur deux, ces hérons de l'ombre, invisibles mais indispensables à notre quotidien. C'est à 13h, juste après les voix de l'écho sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait.